frontière infranchissable a divisé l'Europe en deux. Le rideau de fer. 3800 km de palissades, de barbelés et de murs séparant l'Europe de l'Ouest du bloc de l'Est. Pendant 40 ans. Qui s'en souvient? Que savons-nous, citoyens de l'Ouest, de ce que fut la vie de ceux qui, à l'Est, ont vécu de l'autre côté du rideau de fer?
À 3 ou 4 ans, que j'ai découvert qu'on vivait dans une sorte de bulle, qu'il existait un rideau de fer. J'étais à vélo avec mon père et mon frère. On est allé jusqu'à la sortie de Tcheske Velenice. Et d'un seul coup, on a découvert, moi j'ai réalisé pour la première fois qu'il existait un rideau de fer avec des soldats et qu'ils semblaient prêts à tirer, comme sur des envahisseurs, alors que nous on s'approchait sur nos vélos. Alors pour moi, ce jour-là, ça a été une découverte horrible, choquante. Et je dois dire qu'après ça, j'ai passé plusieurs très mauvaises nuits.
1945. L'Allemagne nazie est vaincue. La fin de la guerre fige au milieu de l'Europe les troupes de ceux qui sont encore des alliés, russes et américains. Plusieurs conférences internationales décident du tracé des nouvelles frontières et du sort des populations. Sur l'ouest de l'Europe s'impose l'influence de l'Amérique capitaliste. À l'est, celle de la Russie communiste. Jusqu'en 1948, les populations circulent encore librement d'un côté à l'autre des frontières.
C'était juste après la guerre. La frontière était la même. Les Russes sont arrivés les premiers. Ils montaient la garde et on s'entendait très bien avec eux. Une bouteille de vodka et on allait à Schöningen.
Sur l'ancienne ligne de partage des vainqueurs, nous avons rendez-vous avec Gita. Née dans ce village allemand, en zone soviétique, mais travaillant comme bonne d'enfant 2 kilomètres plus à l'ouest, sous contrôle américain. Transfrontalière, 2 fois par jour, pendant des années. La frontière Gita, elle l'a vue naître.
Ça s'est bien passé pendant des années. Tout d'un coup, j'ai voulu rentrer chez moi. Plus possible. Fermé. Bouclé. Tout s'est refermé alors qu'on n'aurait jamais cru ça possible. Les autres ne pouvaient plus sortir. Les hommes étaient coincés dans le village. Plus le droit de se parler à plus de 5. Les fêtes interdites. Quelque chose pouvait arriver.
Winston Churchill, qui a mené l'Angleterre à la victoire, s'inquiète des agissements russes en Europe de l'Est, où les communistes s'imposent par la force, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne de l'Est. À Fulton, sur le sol américain, devant le président Truman, il glisse dans son discours une expression prémonitoire.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Ils ont construit les palissades et ont dit qu'on devait se protéger de l'Ouest. Que c'était pour notre bien, pour empêcher d'être attaqué par l'Ouest. Voilà pourquoi ils ont construit la frontière qui est devenue de plus en plus tranchante, plus dure, plus tranchante pour nous. Alors quand le mur était là, si blanc, puis vous vous tenez devant, vous ne pouvez plus regarder par là. C'était un choc, un spectacle que je ne peux pas décrire. J'en tremble encore.
Ce qu'ignore Gita est qu'une guerre froide s'est installée entre Russes et Américains à partir de 1948. Depuis mai 1952, une bande de 5 km de large sépare désormais les populations de l'Est et de l'Ouest. Un no man's land, d'où sont chassés ceux qui y habitent, réinstallés de force au-delà des barbelés. Les contacts familiaux sont rompus. Churchill avait vu juste. Un rideau de fer est tombé sur le continent. Partout. Enfin, presque. quelque part en Allemagne. À cheval entre les provinces de Thuringe et de Bavière, un village va subir un destin encore plus inattendu.
Le village a été divisé en deux parties par la frontière. C'était déjà le cas avant 1945. Le ruisseau qui coule constituait la limite administrative. Mais cela n'a jamais affecté la vie des villageois d'ici. L'auberge et l'école étaient situées dans la partie thuringe du village. Mais tous allaient à l'église du côté Bavière.
Nous avons demandé à Suzanne Burger de nous guider et nous raconter l'incroyable histoire du village de Meutlareut. Historienne, née près d'ici, bien après le rideau de fer, Suzanne puise dans les témoignages oraux collectés de ces dizaines d'habitants aujourd'hui disparus.
Dès les années 50, des curieux venaient déjà à Meutlareut depuis l'ouest pour voir cette clôture faite de planches qui s'élevait à hauteur d'homme. Au cours des années suivantes, un rideau métallique fut installé, puis trois rangées de barbelés. Enfin, dans les années 60, le mur a été érigé, ce qui a donné au village son surnom de Petit Berlin, ce qui a attiré encore plus de monde. C'était une curiosité qu'un village soit divisé par un mur.
Au milieu, il y a un fil qui court. En le heurtant, cela déclenche cette mine dormante. Et cette mine, en explosant, est capable de projeter plus de 80 éclats de métal alentour.
Mais les villageois côté Est n'étaient pas autorisés à réagir ni à prendre contact. Ou alors secrètement, en s'étant assuré que la patrouille des frontières soit passée, qu'elle ne t'ait pas aperçu à jeter un regard, fait un signe de la tête ou même agiter la main. Ils peuvent même pas montrer qu'ils nous reconnaissent. Non, non. Parce que c'est interdit. Quand je cueille mes poires, je vois la maison de mes cousines. Quand elles me reconnaissent, elles sortent leur mouchoir et le mettent sur le nez, comme ça. Et ça, on ne peut pas l'interdire. Pour moi, c'est le signe qu'elles m'ont reconnu. De nombreux villageois de l'Est témoignent aujourd'hui combien c'était difficile pour eux. Que vont penser de nous, ceux de l'Ouest? De quel genre d'humains avons-nous l'air? Vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas eu le droit de répondre à des gens qui vous adressent un signe amical. Parce qu'il nous fallait faire comme si on s'en fichait. C'était dur. Plus dur encore, dans les années 80, à l'occasion de travaux pour lesquels quelques pans de murs ont dû être retirés. Pendant quelque temps, rien n'empêchait plus le contact visuel d'un côté à l'autre des deux États. Encore plus de curieux sont venus parce qu'il leur était possible de voir sans entrave l'Allemagne de l'Est, un pays étranger. Et le mur n'étant plus là, c'était pire. Les gens se tenant devant l'ouverture, essayant d'établir le contact, et c'est sordide à dire, mais on était presque contents quand les travaux furent terminés. Westlicher Seite natürlich dann auch versucht haben, Kontakt aufzunehmen.
Si le rideau de fer a définitivement isolé les peuples européens, un dernier point de passage est-ouest s'offre encore aux réfugiés, Berlin. Berlin est une île au cœur de l'Allemagne de l'Est, coupée en deux. Berlin-Ouest sous contrôle des Occidentaux et reliée à l'Occident par la route, le rail, l'air. Berlin-Est, capitale de la République socialiste. Depuis 1945, les Alliés y ont maintenu de toute force le principe de libre circulation des citoyens berlinois à l'Ouest comme à l'Est. dernier point de fuite dans le dispositif de 3800 km du rideau de fer. Berlin, qui exaspère le Kremlin depuis 1948. Jusqu'à cette nuit du 12 au 13 août 1961.
Du mur et le bouclage du secteur ouest avait été longuement prémédité par la direction du parti est allemand. Mais le feu vert a été donné par Moscou.
À Berlin, nous nous glissons dans l'agenda d'Axel Klausmeier, directeur du mémorial du mur, historien-chercheur, spécialiste des relations est-ouest.
La RDA avait perdu un sixième de sa population totale au moment de la construction du mur en 1961. 2,7 millions de personnes avaient quitté le pays, dont une grande partie par Berlin. Il était relativement aisé depuis Berlin-Est de passer à l'ouest simplement en prenant le métro. Il faut reconnaître qu'il s'agissait d'un coup de maître technologique cette nuit-là pour parvenir à fermer toute la frontière du secteur ouest. Pas complètement, mais presque. Bien sûr, il y avait encore beaucoup d'évasions. Au cours de la première année du mur, au moins 26 personnes sont mortes en tentant de s'échapper d'est en ouest. Mais avec le temps, le système s'est amélioré. Cyniquement, le système s'améliore à mesure que les gens tentent de fuir. Et la plupart sont capturés avant leur tentative. Pas seulement parce que les installations s'améliorent, mais parce que la police secrète surveille mieux les gens.
J'étais avec ma mère qui, à l'époque, était en train de cueillir des champignons. Nous sommes revenus dans l'après-midi et il y avait du bruit partout dans la rue. Un mur a été construit à Berlin. Je dois dire que je ne savais pas quoi en penser. J'avais 15 ans. À 15 ans, je ne me sentais pas enfermé. Nous avons tous eu une enfance relativement heureuse et toutes les questions politiques ne nous ont pas effleurés ni touchés. Les jeunes filles m'intéressaient. C'était plus important.
Quand j'ai demandé à mes amis allemands de l'Est s'ils avaient dans leur famille quelqu'un ayant vécu une histoire particulière de ce côté-là du rideau de fer, ils se sont souvenus d'Hans Jürgen. Son histoire, ils n'en savaient trop rien. Dans chaque famille de l'Est, il y a un Hans Jürgen, à la biographie souvent bien enfouie.
Je suis un enfant de l'après-guerre. Né en 1946 à Chemnitz, qui était une grande ville industrielle, détruite à 75%. Mon enfance s'est passée dans les ruines, jusqu'à ce que je commence l'école en 1953. L'Ouest était d'une certaine façon là où la plupart des gens voulaient aller. Bien sûr, on a déchanté, mais à l'époque, les gens ne voulaient rien d'autre. Ils voulaient voyager, ils voulaient voir quelque chose, ils voulaient de meilleures conditions de vie. Et bien sûr, ils avaient toutes les possibilités de s'informer sur la radio et la télévision. On avait des images du monde occidental. Les autorités à l'école nous demandaient régulièrement si on écoutait la radio de l'Ouest à la maison. C'était presque comme le Troisième Reich. Vous n'aviez pas le droit d'écouter la BBC. Et on vous demandait à l'école, quel programme regardez-vous à la télévision ouest-allemande? Quelle chaîne? Si nous écoutions par exemple la radio américaine de Berlin, une voix du monde libre.
Mais comment surveiller 30 millions de citoyens depuis l'école primaire? Comment appréhender les fuyards avant qu'ils ne s'échappent? Les confondre à peine l'idée de fuir leur traverse l'esprit? Les républiques socialistes adaptent pour cela une arme absolue venue de Moscou, la police secrète.
La mission de la sécurité de l'État, la Stasi, était celle d'une police secrète qui veillait aux intérêts politiques du parti, y compris en veillant à ce que les habitants de la RDA restent et ne fuient pas vers l'Ouest.
Roland Yann, opposant politique en Allemagne de l'Est, bête noire de la sécurité de l'État, la Stasi, surveillé, dénoncé, emprisonné, déchu de nationalité et finalement extradé à l'Ouest, mais de retour en conservateur des archives de la Stasi. Qui de mieux pour en décrypter la mécanique ?
La Stasi a eu recours à diverses méthodes de surveillance. Bien entendu, elle a développé toutes les techniques pour cela. Fouille des appartements, surveillance vidéo, écoute.
Des kilomètres de films et de bandes de surveillance sont désormais accessibles aux historiens comme aux citoyens. Une véritable cinémathèque d'espionnage, censée rendre étanche le pays.
Des faits suspects étaient détectés, des indices étaient rassemblés, et voilà. On pouvait fonder nos soupçons qu'une personne s'apprêtait à fuir à l'Ouest. Rideau de fer a fait s'adapter les gens à cette dictature. Ce rideau de fer a fait se résigner les gens. Ce rideau de fer a fait démissionner les gens. Ils ont dû composer avec les circonstances, s'y adapter parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays. Ils se sont donc souvent retirés dans une bulle privée. Ce sont là tous les effets de ce rideau de fer qui ont façonné une société sans liberté.
Voilà un vieil ami à moi, Wolfgang. On se connaît depuis 50 ans maintenant. Et malheureusement, il était aussi avec la sécurité de l'État et m'a espionné. On peut dire que je n'ai rien remarqué jusqu'à mon arrestation. J'avais 7 informateurs qui traînaient dans les parages et je n'en ai pas remarqué un seul.
Fait souffler un vent de liberté partout en Europe. Et un souffle plus fort encore en Tchécoslovaquie, qui invente le socialisme à visage humain. Liberté de s'exprimer, liberté d'entreprendre, liberté de circuler, liberté que les chars soviétiques vont écraser au mois d'août.
Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Ils ont des tanks, ils ont des armes.
L'onde de choc, démoralisante, est terrible. Et davantage encore dans les pays de l'Est qui ne s'étaient pas révoltés, mais y avaient vu un espoir.
Je n'ai écrit mes pamphlets qu'en 1968, l'année clé où les chars russes sont entrés dans Prague. C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire. Nous, les étudiants de Chemnitz, nous sommes contre l'invasion de l'armée russe à Prague. Je les ai reprographiés et je les ai mis dans les boîtes aux lettres. C'était insensé. Vous écrivez un petit pamphlet et vous prenez 4 ans de prison. Cela montre aussi à quel point le système n'était pas sûr de lui.
Désormais, il leur faut se résoudre à vivre derrière le rideau de fer. Vivre heureux, résigné, à l'abri, révolté. Depuis l'Ouest, on les plaint. Mais en réalité, qu'ont-ils vécu ? Pour comprendre tous les sentiments contradictoires qui ont animé ceux de l'autre côté, Muriel Blève, chercheuse à l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires de Prague, arpente depuis 20 ans les rues d'une petite ville tchèque, Českevelenice, à la frontière de l'Autriche. Elle en a fait son laboratoire et de ses habitants, ses informateurs.
Českevelenice est un cas très spécial parce que la ville est si près de la frontière. Déjà en 38, on avait créé un premier exemple de barbelé pour essayer d'empêcher l'Allemagne nazie d'entrer. Donc c'était pas leur première expérience de barbelé en fait. Et il y avait quelque part dans l'inconscient collectif la notion très forte que cette rangée de barbelés, elle est là pour protéger les Tchèques et non pas pour les attaquer.
České Velenice aurait dû être évacué, comme tous les villages situés sur la frontière même. Mais, annexé par les Allemands dès 1938 et reconquis après-guerre, le village est devenu une fierté nationale tchèque. Pas question de le supprimer.
Ici, c'était, comme on dit, un alluvion de gens venus d'ailleurs. C'était dû à l'ouverture d'une grande usine qui a fait venir des quatre coins du pays des gens en recherche de travail et de logements bon marché. Parce qu'ici, on leur fournissait même le logement.
Marcella, employée des chemins de fer tchèques.
L'État fournissait une école pour les enfants, les formait. Rien n'était payant, les soins médicaux étaient gratuits. On vivait serein en quelque sorte. Il fallait suivre le mouvement. Il ne fallait pas trop se démarquer. Si quelqu'un se faisait remarquer, il se faisait immédiatement taper sur les doigts.
Dès lors, ses habitants et les autorités ont dû composer une vie en bordure du rideau de fer. Une vie compliquée comme ailleurs dans le pays, mais ici compliquée fois 100. La piscine, par exemple.